Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouvel épisode du grand écran de Vivante Église, notre émission mensuelle consacrée au cinéma. Deux films au sommaire pour ce numéro, Le garçon qui faisait danser les collines, premier long métrage du réalisateur macédonien Georgi Unkovski. Il est actuellement à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. En seconde partie d'émission, nous évoquerons un chef-d'œuvre du cinéma muet et de l'histoire du 7e art en général, La Passion de Jeanne d'Arc, film tourné en 1928 par le cinéaste danois Carl Theodor Dreyer. Et comme chaque mois, je retrouve pour ce grand écran Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux amis cinéphiles. Je précise que le ciné-parole que vous animez ensemble à l'ABC mardi prochain, le 16 juin à 14h30, est dédié au film de Georgi Unkovski, Le garçon qui faisait danser les collines. C'est donc le premier long-métrage de ce cinéaste macédonien, né à New York il y a 38 ans. Cela dit, Louis-Marie, il s'était déjà signalé par la réalisation de courts-métrages et d'une série télé.
Alors, à propos de la série télé, j'ai pas beaucoup d'informations en tout cas. Il est compliqué de l'avoir sur une des plateformes auxquelles on a accès ici. Toujours est-il qu'un de ses courts-métrages, Sticker, qui raconte l'histoire d'un père qui fait face à l'absurdité de l'administration, a participé à de nombreux festivals, dont le fameux festival de Sundance en 2020. Et il est présenté sur des chaînes HBO, MTV. On peut accéder à HBO d'ici, mais je ne saurais vous dire s'il est facile de le trouver. Je n'ai pas essayé de le faire. Toujours est-il qu'Unkovski est avant tout photographe. Au début,
il est photographie.
Photographe de formation. Oui. Il a étudié aux États-Unis. Vous l'avez dit, il est né à New York. Et il a étudié donc la photographie au Rochester Institute of Technology. Et il a continué en étudiant le cinéma à l'université FAMU de Prague. C'est là où il a obtenu son master de réalisation. Bon, c'est quelqu'un qui sait faire des films, en tout cas, qui sait regarder et faire des images, ça c'est certain.
Oui, d'ailleurs on va en parler de cet aspect de ce film. Alors, tourné a priori en Macédoine du Nord, il faut dire Macédoine du Nord parce que ce pays historiquement est coupé en deux, la partie sud appartient aujourd'hui à la Grèce, et donc l'État indépendant, c'est la Macédoine dite du Nord, je crois que c'est les Grecs d'ailleurs qui avaient exigé que ça s'appelle Macédoine du Nord, bon, pays des Balkans, très montagneux, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les images du film, très peu peuplé, enfin il n'y a même pas 2 millions d'habitants, avec une majorité de citoyens d'origine slave, chrétiens orthodoxes, mais aussi d'importantes minorités albanaises, turques et roms, et le film dont nous allons parler, et c'est important de souligner aussi, se passe dans une des communautés turques macédoniennes, nord-macédoniennes, la communauté Yoruk, je prononce vraiment comme ça s'écrit, sans être certain du tout de bien le prononcer. Voilà, alors le film, ce qui est particulier, il semblerait que ce soit une espèce de coproduction entre la Macédoine, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Croatie et la République tchèque.
Bon. C'est-à-dire que maintenant, comme il faut beaucoup d'argent pour faire un film, on se
met nombreux. Tous les bureaux.
Voilà, exactement.
Bon, voilà pour situer un petit peu les choses. Et je vais demander à Paul de nous raconter l'histoire qu'on y découvre et les personnages principaux que l'on y croise.
Alors, les personnages principaux... Il y a d'abord Ahmed, qui est un jeune de 15 ans, qui est à l'école et qui se trouve arraché de l'école par son père. Leur mère vient de mourir et il doit venir s'occuper du troupeau
de brebis.
Donc il y va plutôt malgré lui, mais dans cette culture-là, on ne décide pas du tout. Il est chargé en outre des moutons de s'occuper de son petit frère,
Naïm,
qui, depuis le décès de sa mère, ne parle plus. Le père des deux garçons l'emmène chez un rebouteux pour lui faire faire des...
Enfin, rebouteux, oui. J'ai une espèce de guérisseur, oui, limite exorciste,
c'est ça,
enfin,
oui.
Une espèce de gourou, quoi.
Qui prétend pouvoir lui redonner la parole, mais rien n'y fait. Ce Ahmed et passionné de musique, de technologie, de très très loin de l'univers de son père. Et tout en gardant les moutons dans les collines, il monte sur un tracteur, une sorte de karaoké mobile, avec des enceintes qu'il a bricolées, etc. Et il va rejoindre un groupe de femmes dans laquelle il y a Aya. Et Aya, dont il est amoureux évident. Mais Aya,
un peu transi, mais amoureux tout de même.
Oui, oui, oui. Mais voilà, Aya est promise à un mariage qu'elle n'a pas choisi. Parce que
comme
c'est
ça se passe dans sa communauté.
Voilà,
là, hein.
C'est son père qui décide de tout. Et dans ce film, qui est comme un conte, il y a un groupe de femmes âgées qui, comme dans les tragédies grecques, commentent l'histoire qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un film qui est intéressant parce qu'il emprunte à cette forme de spectacle, art dramatique, avec le cœur qui permet de comprendre ce qui se passe. Et puis, on a toute la rudesse aussi de l'histoire
de la vie que mènent ces gens dans cette communauté et dans ce pays.
Oui, oui. Alors, c'est assez rocambolesque aussi. Ce jeune garçon qui s'occupe des moutons a une soirée de fête. Il y a un rassemblement,
une rave party.
Et le troupeau de moutons s'échappe de son enclos et déboule dans la rave party et sème une pagaille, un peu...
Et c'est filmé en plus.
Et c'est
ça
filmé.
Se retrouve sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est, voilà.
Parce qu'il y a ce mélange de sociétés très traditionnelles et de technologie, et donc cet accès à Facebook, à TikTok,
c'est
à
ça.
Tous les réseaux
qu'on
connaît.
Il a tout de suite
aussi,
une couverture médiatique impressionnante. Et alors, avec Aya et ses copines, il va être l'homme pour la sono, les éclairages, tout ça. Il va y avoir une fête des tribus locales où les jeunes filles vont danser des danses traditionnelle. Il n'est pas question de s'écarter de quoi que ce soit. Mais ces jeunes filles se sont exercées entre elles dans les collines et ce n'est pas du tout la tradition qui les intéresse. Donc elles vont faire une représentation dansée qui heurte la sensibilité des parents, tout en rencontrant un vrai succès. Bon, parce que Aya a un projet d'échapper à ce mariage forcé. Bon, on ne va pas dévoiler...
Sachant qu'Aya, si j'ai bien retenu ce qui se passe dans le film, a étudié en Allemagne.
Oui.
Donc elle a goûté, entre guillemets, à une société autre que celle dans laquelle elle a grandi, et à une certaine liberté, notamment pour les femmes.
Alors que dans cette société-là, il est impossible de faire évoluer les représentations,
Et la place qu'ont
les
femmes
du groupe,
au sein du groupe.
Voilà.
Oui, ce qui marche remarquablement bien dans son film, c'est les images. On parlait de sa formation de photographe, ouais, et puis de celle de réalisateur. Mais justement, à ce propos, il arrive bien à filmer le cadre, à plonger le spectateur dans le cadre. Les paysages sont majestueux. Et puis, il y a ces fameux troupeaux de moutons qui sont, à eux tout seuls, un personnage du film. Et on les voit traverser le cadre. Tout ça participe de la description de ce lieu qui est un lieu de tradition, un pays de tradition, mais aussi avec cette volonté d'une partie de la population les plus jeunes d'évoluer vers autre chose. D'ailleurs, quand DJ Ahmed, c'est comme ça qu'on
DJ
l'appelle.
Ahmed. D'ailleurs, le titre du film, c'est DJ Ahmed.
Le titre original. C'est le titre français qui a choisi d'être à rallonge et qui finalement correspond bien, qui a un côté poétique qui correspond au film. Et puis il y a un humour de fond aussi, à travers les réflexions d'Armette, justement. En particulier, il y en a une qui m'amuse, c'est que quand il a du mal avec son troupeau, il les menace, il dit « Attendez l'Aïd, vous allez voir ce qui va vous arriver. »
Oui, je pense que ça a dû faire rire jaune dans la salle les amis des animaux.
Oui, aussi. Mais en tout cas, la façon dont il leur parle des fêtes religieuses, c'est un futur qui est plutôt noir pour ces pauvres bêtes.
Et alors, il y a eu des péripéties sonore aussi avant, c'est-à-dire que pour installer sa sono et tout ça, il se branche aussi sur le minaret
oui.
qui passe de sa musique à lui. Donc ça fait un peu tache dans l'univers sonore du village.
Oui, mais étant donné que c'est le minaret, lui est équipé de haut-parleurs plutôt modernes.
Plus puissants que ce qu'il avait sur son tracteur. Alors il y a un autre passage rigolo. Après cette fête-là, cette rêve partie, traversé par le troupeau de moutons, il y a un mouton qui s'égare.
Oui, ils sont 20 normalement, ils rentrent, il arrive à les récupérer, croit-il, tous,
tant bien que
et
mal.
Quand il les compte, parce qu'il les compte, et le père aussi les compte régulièrement.
Et donc
il y en a 20, il n'y en a plus que 19, donc il y en a un qui s'est fait la malle,
et
qui va réapparaître un peu curieusement.
Qui va réapparaître teinté de rose.
On ne sait pas trop comment, mais bon.
Voilà.
Il a participé plus intensément à la rêve
partie.
Oui,
à la rêve, sûrement, oui.
Non, mais ce troupeau de moutons, évidemment, symbolise, je pense, la société en question. C'est-à-dire, c'est un troupeau qui essaye de s'échapper en permanence, évidemment. Oui. Et là, il y en a un qui y arrive. Alors, ce qui va se passer, c'est que le père, qui avait laissé la garde des moutons au fils aîné, parce qu'il avait emmené le petit, une fois de plus, chez ce guérisseur doit lui rendre la parole, à ce pauvre petit, qui est un gosse très mignon, d'ailleurs, qui est adorable. Et il revient, il compte les moutons, une fois, deux fois, trois fois, 19, il en manque un. Donc, il dit, Ahmed, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Évidemment, il ne lui dit pas ce qui s'est passé vraiment.
Non, mais il se fait mettre à la porte, à ce moment-là.
Oui,
le père n'est pas content
moutons,
du tout.
Il dort avec les moutons la nuit. Il dort avec les moutons. Voilà. Tant qu'il ne sera pas revenu, tu dormiras avec
lui. Et puis, il est réveillé le matin, un coup de seau d'eau, et voilà.
Ouais, ça rigole pas trop dans la famille. Hein. Ouais. D'ailleurs, le père, bon, on verra à la fin, on va pas tout raconter.
Non, mais
il va s'humaniser un petit peu, mais il est extrêmement dur avec ses fils, et notamment avec l'aîné. Hein.
Et oui, la disparition de la mère qui devait, on l'imagine, évidemment tempérer
mais
l'ambiance.
Surtout, c'est la mère qui a donné le goût de la musique à ses fils.
Oui, et on comprend pourquoi Ahmed aussi se plonge aussi intensément dans la musique et en fait quelque chose de capital, d'important dans sa vie.
C'est un personnage même central du film, la musique. Mais, tout passe par la musique. Et c'est la musique qui symbolise la liberté et qui va amener l'un et l'autre, Ayar et Ahmed, à se libérer du joug. Et à quel prix?
Parce que c'est quand même bien verrouillé.
Hein. Ouais, c'est extrêmement dur. Une fille qui est promise un mariage forcé, elle n'y échappe pas. Hein.
Oui, on ne dira pas si elle y échappe ou pas. Vous le découvrirez en allant voir le film. Toujours est-il que la musique, c'est, vous l'avez dit, un moteur même narratif. C'est à la fois l'évasion, évidemment, se sortir de cet univers, mais aussi la découverte de soi. Ça montre tout ça à la fois et ça le fait avec plutôt de la légèreté. Et c'est ce qui fait que la réussite du film, c'est là, c'est parce que on navigue entre le récit initiatique, la chronique rurale, une espèce de conte, pourquoi pas, aussi.
C'est un conte initiatique, mais il y a aussi un aspect, si c'était un livre, on dirait que c'est un roman d'apprentissage.
Exactement.
Bildungsroman, comme disent les Allemands, puisque c'est eux qui ont inventé le genre. Mais oui, il y a beaucoup de ça aussi. Effectivement, à propos de ce que vous dites, je suis tombé sur une interview là, de Georgi Unkowski, où il explique que le mélange des genres est l'un de mes aspects préférés de la narration de ce film. L'humour et la tragédie sont souvent intimement liés dans la vie. Nous trouvons de l'humour dans la tristesse et de la tristesse dans l'humour. Et c'est vraiment ça, ce film.
Et c'est en même temps un regard politique.
Oui, beaucoup.
C'est-à-dire que...
À la fois sociétal...
D'une jeunesse qui a envie d'autre chose et de l'incompréhension de la génération précédente qui dit « mais pourquoi changer ?»
Oui. Mais c'est la musique fait beaucoup d'effet à Ahmed, DJ Ahmed, c'est son nom.
Oui, ça le prend.
Ça le prend et c'est ce qui, d'une certaine façon, le transforme. Parce que quand il découvre la rave party dont il ignorait qu'elle allait se tenir au milieu des bois, c'est pour ça que ses moutons aussi y déboulent.
Il se passe souvent des choses dans la forêt.
Il est émerveillé par ce qui se passe. Il se dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, je veux vivre comme ça. Je veux faire ça.
Parce qu'il y a des côtés, notamment dans la forêt, la nuit, très fantasmagorique. Il y a des moments où on ne sait pas si on est dans la rêverie ou dans la réalité. Et ça, je pense que ce sont des allusions à la Divine Comédie de Dante, beaucoup, à ce moment-là. Le film est aussi, effectivement, très poétique par les images et par les situations, et certains personnages aussi, notamment les personnages des femmes âgées.
Oui,
qui fait une espèce de cœur antique.
Cœur antique, oui.
Et il y a le fait aussi que ces jeunes acteurs sont remarquables.
Oui, c'est incroyable parce que figurez-vous qu'il a mis 5 ans pour monter ce film, Minkowski. Donc il a eu l'idée, il raconte quelque chose qui est assez amusant, je ne sais pas si ça part de là. Il explique que la Macédoine du Nord est pleine de contrastes entre tradition et modernité. Je me souviens avoir repéré des lieux de tournage et y avoir vu un berger sortir l'iPhone dernier cri. Et il y a vraiment ce mélange-là. Et donc il a mis 5 ans entre le moment où il a eu l'idée du film et la réalisation, le final cut. Il a auditionné, alors j'ai beaucoup de mal à le croire, mais apparemment c'est bien ce qui s'est passé, 3000 jeunes pour trouver les deux rôles principaux, enfin ceux qui allaient interpréter les deux rôles principaux, donc le grand et le petit frère, et il les a trouvés dans un rayon de 50 km autour du village où a été tourné le film, ce qui lui donne toute son authenticité.
Et puis il y a la jeune fille qui joue le rôle de qui joue le rôle d'Aya. Elle a tout, elle a le charme,
l'élégance.
Oui. La première fois qu'on la voit, quand elle apparaît, évidemment, c'est il utilise ses clichés, mais on marche parce qu'elle apparaît le fond de musique, elle marche au ralenti et on le voit, il est bouche bée.
Ah bah oui.
Bah c'est presque une apparition.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose de magique, justement.
Et en plus, il y a ce magnifique habit traditionnel des femmes de ce pays, très coloré.
Très beau.
Qui lui va merveilleusement bien.
Et d'ailleurs, quand il est question de la mariée, il y a la famille de son futur époux qui vient la voir. Et il y a le père qui dit « Elle est trop mince
». Oui, bah oui.
Il la trouve trop mince.
On n'est jamais tout à fait content, en tout cas dans ces communautés, on a toujours une image de la femme, hein, puisque les mariages sont arrangés,
je trouve que
qui doivent correspondre à certains
codes. Ce film est à la fois très dépaysant grâce au paysage, mais en fait on se plonge dans la vie de cette communauté que j'avoue, bon, moi je ne connaissais pas, la Macédoine, c'est pas un pays auquel on s'intéresse forcément lorsqu'on vit en France. Et en laissant, moi je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais je les trouve à la fois très lointain, mais très proche de nous.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on est dans une atmosphère où on participe vraiment. Hein. Les images nous mettent en plein cœur de cette action, avec cette famille un peu chahutée par la mort de la mère, et puis la communauté villageoise. Et le moment de la fête populaire où la danse va être révélée au public dit quelque chose de difficile, c'est-à-dire que quand les gens découvrent que c'est pas une danse traditionnelle, il y a une sorte de probe collective.
Au départ, il y a un moment de sidération, ils se demandent ce qu'ils sont en train de voir, et puis quand ils comprennent ce qui se passe,
c'est pas supportable.
Le père de la future mariée se lève
pas content
pour la sortir
tout.
De la scène. Quoi.
C'est... Encore une fois, c'est ce qui fait la fraîcheur de ce film. Il ne sombre pas dans la facilité et n'utilise pas les clichés qu'on peut rencontrer dans ce genre de film qui montre l'opposition entre tradition et modernité. Voilà, donc il y a les réactions forcément des parents, mais somme toute finalement logiques et on comprend pourquoi les enfants, et les filles en particulier, ont voulu à toute force faire ça parce qu'elles se doutaient de ce qui allait arriver. Il n'était pas possible que ça ne se passe pas. Même si elle voulait être filmée et que ça passe sur TikTok. Hein, ça aussi. Vous parliez des derniers iPhones, mais là aussi, les réseaux sociaux.
Ils ont toujours leur téléphone à la main, avez remarqué.
Oui.
C'est ça, pour ceux-là qui sont aussi proches de nous. Bon, écoutez, on ne va pas en dire plus. On va en rester là pour ce film. On conseille, et vous serez d'accord avec moi, à nos auditeurs et auditrices d'aller découvrir Le garçon qui faisait danser les collines dans les salles de notre région où il est à l'affiche, notamment à l'ABC à Toulouse. Paul et Louis-Marie vous y attendent pour leur ciné-parole mardi prochain, le 16 juin, après la projection qui commence à 14h30. C'est le moment de faire la pause musicale dans cette émission avant la seconde partie que nous allons donc consacrer à La Passion de Jeanne d'Arc, réalisée en 1928 par Carl Theodor Dreyer. Plusieurs musiques ont été composées a posteriori pour accompagner les images de ce film muet, je le rappelle. Il y en a une qui date de 1994, signée Richard Einhorn, un compositeur américain qui l'a intitulée Voices of Light, les voix de la lumière. Je vous propose d'écouter le final, l'épilogue, inspiré par les images de Jeanne au bûcher à la fin du film de Carl Dreyer. On se retrouve ensuite avec Paul et Louis-Marie.
présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la suite du grand écran de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites du Sud-Ouest, et de Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. C'est donc La Passion de Jeanne d'Arc, réalisée en 1928 par le grand cinéaste danois Carl Theodor Dreyer, que nous avons choisi pour cette seconde partie d'émission. Nous avions évoqué à Vivante Église il y a 2 mois le procès de Jeanne d'Arc, tourné par Robert Bresson en 1955. Nous creusons le sillon, si je puis dire, avec ce film muet tourné en France avec des acteurs français, dont René Falconetti dans le rôle de Jeanne. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Il a influencé des générations de réalisateurs, de Bergman à Lars von Trier, en passant par Jean-Luc Godard ou Andrei Tarkovski. Nous l'avons tous les trois revu avant cette émission. Est-ce qu'il fait toujours aussi forte impression près d'un siècle après sa sortie?
Alors, pas seulement l'expression, mais c'est une claque. D'autant que le film a été restauré dans une version, l'image est d'une qualité rare, c'est une version 4K maintenant. Donc c'est...
Oui, oui, oui.
Et le son, vous parlerez de la musique, Eric, mais c'est extraordinaire.
La musique, parce que je vous ai envoyé... une des versions qu'on peut trouver, et là, c'est la musique, justement, de Richard Einhorn, qui accompagne les images pendant toute la durée. Cette musique est tout à fait adaptée. Bon, ça, c'est une parenthèse.
Et effectivement, on est frappé par la qualité de l'interprétation de René Falconetti, parce qu'on la voit de temps en temps en pied, mais le plus souvent, c'est son visage. Elle est cadrée... un portrait.
Bon, c'est des gros
portraits ou très gros plans.
Des gros plans, parfois des très très gros plans sur les visages, non seulement le sien, mais celui aussi.
Les larmes qui coulent.
Elle avait dû subir, oui, si on peut dire ça comme ça, Carl Dreyer voulait quelque chose de particulier pour sa Jeanne d'Arc, donc il lui avait fait raser la tête. Ouais. À l'époque,
à la fin des
années 20, raser la tête, et puis cette façon de supporter chaque fois le poids de ce qui se passe, la façon de filmer, d'être mise en scène, donc ça avait été compliqué pour elle, même si le film est court. Enfin, quand il dit
court, 1h20,
relativement, hein, toujours
oui,
par rapport
mais
à l'époque.
C'est pareil, c'est centré sur le procès, hein, c'est vraiment centré sur,
ah, oui,
sur
oui,
le
oui,
procès.
On échappe
à partir des minutes du document original de ce procès, donc 1431, dont il s'est largement inspiré. Alors le scénario est coécrit avec Joseph Delteil, écrivain français bien connu à l'époque, qui d'ailleurs était originaire de notre région, parce qu'il était audois, et tourné en France, donc avec des acteurs français. Il faut savoir que initialement avait été... envisager Lillian Gish, grande vedette du cinéma américain de l'époque, ou Madeleine Renaud, notre Madeleine Renaud, pour le rôle. Et puis finalement, il va au théâtre. On lui avait conseillé d'aller voir René Falconetti, qui était une actrice de théâtre de boulevard à l'époque. Et en la voyant, on dit bah, « c'est elle ». En voyant son visage, l'expressivité, notamment les yeux de René Falconetti, il dit « voilà, c'est elle ». Et puis elle a accepté et c'est comme ça que le film s'est fait. Aussi, je resitue un peu dans le temps parce que Jeanne d'Arc avait été canonisée en 1924, quelques années auparavant. C'est ce qui avait donné l'idée à Dreyer de faire ce film. Paul, je vous donne la parole.
Alors c'est un film tout à fait saisissant, d'autant plus que c'est un film muet.
Oui. Qui devait être parlant au départ, il avait envisagé de faire un film parlant.
Oui.
Et puis finalement, on est au tout début du parlant. Donc,
alors,
on
voit le mouvement des lèvres. Oui. Alors, je ne sais pas si ça a été enregistré puis annulé. Mais,
c'était prévu, oui, il avait commencé, prévu. Et puis il y avait des problèmes techniques.
Et donc, cette juxtaposition des gros plans, on est vraiment face à face avec les protagonistes, à savoir Jeanne, qu'on identifie très vite à la Passion du Christ.
C'est-à-dire oui, c'est le Christ devant ses juges.
Voilà.
Mais
d'ailleurs,
un Christ
le titre
qui ne serait
le dit,
qu'humain.
Le titre le dit bien. Ce n'est pas Jeanne au bûcher, c'est pas, c'est la passion de Jeanne d'Arc. Et vraiment, il y a une similitude entre cette épreuve qu'elle subit, qui est un vrai massacre hein, quand même, hein, cette épreuve qu'elle subit et la mort du Christ en croix.
Mais même le procès, c'est le Christ devant ses juges. Hein.
Voilà. Alors, c'est d'un dépouillement total.
C'est à la fois épuré, mais il y a des côtés expressionnistes aussi. C'est ça qui est très troublant aussi. Hein.
Et puis, l'absence de paroles entendues qui sont remplacées par des cartons.
Les intertitres,
voilà,
oui.
Ce sont vraiment des extraits du procès, hein, ce qu'on trouve dans le document original.
Voilà.
Il n'y a rien inventé. Hein.
Donc, il n'y a pas de floriture. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment un combat où elle est malmenée, cette Jeanne. C'est pas une sainte Jeanne d'Arc avec la cuirasse et tout, mais on la voit, on est avec elle, et elle est sous le feu des regards accusateurs, moqueurs, de la ruse des juges pour la faire se dédire et tout ça.
Ben, on veut lui faire signer un acte d'abjuration.
D'abjuration, et elle reviendra.
Qu'elle reconnaisse qu'elle est inspirée non pas par Dieu, mais par le diable. Voilà, voilà ce qu'on veut lui faire signer. Ce qu'elle fera, et elle se rétractera, ce qui va l'amener au bûcher.
Voilà. Et on voit qu'il n'y a pas d'échappatoire à cette pression qui pèse sur elle. Elle est complètement abandonnée aux mains de ceux qui ont décidé de la faire mourir.
Ce visage de René Falconetti, qui pleure beaucoup le film, on a tout le temps presque des larmes qui coulent, parce qu'il faut s'imaginer deux secondes à sa place, c'est vraiment le visage de l'humanité souffrante, c'est ce qu'il a voulu montrer.
Il a bien réussi.
Et c'est dans les chants contre chants aussi, où c'est très fort. À savoir, on voit le visage accablé, meurtri, en larmes de Jeanne, et puis en contre-champ, c'est les accusateurs qui grimacent
qui se gaussent,
qui se moquent d'elle. Et puis ça va même très loin après, de temps en temps, quand elle retourne dans sa cellule, sont même ses geôliers qui la malmènent, qui la maltraitent, qui se moquent d'elle. C'est la seule femme au milieu de tous ces hommes. Et dont elle ne sortira pas vivante, on le sait.
Les seules femmes que l'on voit, c'est celles de la foule qu'on voit à l'extérieur, qui soutiennent. Enfin, la foule soutient Jeanne, pas seulement les femmes d'ailleurs. La foule soutient Jeanne. D'ailleurs, à la fin, ça se termine. Il y a une révolte, d'ailleurs sévèrement réprimée par les soldats britanniques. Anglais, on ne dit pas britannique.
Oui, anglais.
Et on voit en même temps cette Jeanne d'Arc est fine. Enfin, elle ne se défend pas. Elle est fidèle. On voit qu'elle a entendu
elle n'a que sa foi à le reposer.
Voilà, c'est ça. Donc, elle fait face à des hommes d'église, des théologiens, des juristes qui la menacent, y compris de torture. Et il y a une pression terrible. On voit d'ailleurs une roue édentée. Et puis
des instruments de torture, la roue dentée.
Et avec l'effroi que
très Eisenstein, je pense que ça regarde un peu du côté d'Eisenstein.
Avec l'effroi ressenti par Jeanne, elle est embarquée dans une histoire horrible.
Quand on commence le film, on ne lâche plus, ça nous remue du début à la fin.
Et puis on la trompe aussi. On utilise le fait qu'elle ne sache pas lire pour la tromper, c'est glaçant. Et que ces personnages, avec la stature qu'ils avaient, ce qu'ils représentaient pour l'époque, en soi, a amené à utiliser ces méthodes les plus viles, les plus basses, on est forcément du côté de Jeanne d'Arc.
Il y a ces décors qui sont une abstraction, tout au long du film, qui contrastent aussi avec les plans là, qui n'arrêtent pas de s'enchaîner, gros plans sur les visages. Ça donne aussi un mouvement au film et puis une espèce d'angoisse pour le spectateur qui ne nous lâche pas non plus.
Oui, on lui reproche aussi d'être habillé avec un habit d'homme. Et donc ça, c'est impensable à l'époque. C'est-à-dire qu'une femme se présente en homme, c'est contre la création de Dieu. Et donc, c'est un motif aussi de condamnation. On lui demande de quitter ce vêtement d'homme parce que c'est contre la création voulue par Dieu. Et ça mérite la mort.
Oui. Et Dreyer disait disait de son film qu'il voulait, alors je le cite, interpréter un hymne au triomphe de l'âme sur la vie. C'est ce que représente son film et ce qu'il veut donner de l'image de son film. Et c'est ce qu'on.
De Karl Dreyer.
Et c'est ce qu'on sent forcément quand on visionne ce film, qui, malgré son âge, a toujours une puissance au niveau des images, de l'interprétation assez extraordinaire.
Ah oui. Oui, c'est un film qui est comme une claque, comme on disait tout à l'heure.
Moi, ça, c'est un film qui m'a remué du début à la fin. Je l'avais vu il y a quelques années lors d'une projection qui était accompagnée par Thierry Esquech, l'organiste, qui donc improvisait sur les images. Et 7 ou 8 ans après, c'est toujours le même choc de le revoir. Une émotion qui demeure et qui ne nous lâche pas encore une fois. Je voulais raconter la rencontre entre Karl Dreyer et René Falconetti, parce que c'est assez marrant. Voilà ce qu'il dit. Je suis allé la voir un après-midi et nous avons parlé ensemble pendant une heure ou deux. Je l'avais vue au théâtre, un petit théâtre de boulevard dont j'ai oublié le nom. Elle y jouait une comédie légère et elle y était très élégante. Alors, comédie légère, elle va devenir la jeune meurtrière. Vous voyez un peu le contraste. Donc, elle y était très élégante, un peu évaporée, mais charmante. Alors, je lui ai dit que j'aimerais bien faire avec elle le lendemain un essai de prise de vue, mais sans maquillage, ai-je ajouté, avec votre visage tout nu. Elle est donc venue le lendemain, prête, disponible. Elle a enlevé son maquillage et nous avons fait des essais. Et j'ai trouvé sur son visage exactement ce que je cherchais pour Jeanne d'Arc, une femme rustique, très sincère et qui était aussi une femme de souffrance. Mmh. Et en fait, il va construire tout son film sur le visage de René Falconetti.
C'est ça, c'est le centre du film, c'est ça. C'est
et alors, le
visage de Jeanne d'Arc.
Et la partie adverse, c'est un peu des figures de gargouilles.
C'est ça, oui.
Et voilà.
Gargouilles qui se seraient décrochées de la cathédrale, oui.
Absolument. C'est-à-dire, les hommes d'église sont infernaux.
Ben oui, c'est la duplicité. D'être inspiré par le diable, mais alors eux, ils sont diaboliques tout au long du procès.
Ils sont pris par leur dogmatisme, le diable, c'est Jeanne.
Dans ce film, moi j'ai l'impression qu'elle se consume dès le départ. Dès le départ, ils sont en train de la brûler.
Oui, oui.
Elle est déjà brûlée pendant le procès.
Ah oui, l'affaire est
entendue.
Est entendue.
Oui.
Mais c'est justement ces gros plans qui ont surpris les spectateurs de l'époque.
Oui,
c'est-à-dire que
les critiques.
Les critiques qui ont été bonnes au demeurant.
Oui, oui.
Mais toujours est-il que les spectateurs ne s'attendaient pas à voir un film où on soit aussi près des personnages et de son personnage central. Jusqu'à présent, les films, on était plutôt dans des plans d'ensemble et pas dans des gros plans aussi affirmés d'un seul personnage de surcroît.
D'où le choc que ça produit sur le spectateur.
Exactement, oui. Oui, parce que
même pour nous aujourd'hui.
Ce qui a le plus choqué à l'époque, et même aujourd'hui, quand on le revoit, on se dit mais c'est pas possible de faire un film comme ça, avec cet usage systématique de très gros plans sur les visages. Mais finalement, même à l'époque, le film avait été bien reçu par le public.
Oui. Et là, il faut noter aussi, pour ajouter à ça, c'est que l'abstraction des décors, quand même, même si on est là,
c'est ça.
Bon, il y a là, on voit là, le lieu où se passe le procès, et la cellule aussi, tout ça. On sait où on se trouve, mais après, c'est le minimum.
Ah oui, c'est les purs
totales.
C'est ce que voulait faire Dreyer, c'est ce que vous avez dit en rapportant sa phrase, Louis-Marie. Ces gros plans sur les visages, les regards, les expressions et les grimaces, c'est l'âme de chacun des protagonistes du film mise à nu. Hein. C'est ça ce qu'on voit.
Et le regard par les interstices du cachot des gardes, c'est diabolique ça aussi. Enfin, c'est...
On est coincé, serré, toujours. On est pris comme elle est prise.
Comme elle est prise. Et on est avec elle.
Exactement. Il y a cette espèce de malaise terrible dont on sait qu'elle ne sortira pas vivante.
Nous, on le sait dès le départ.
Oui. Ouais. Là, de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère.
Oui.
D'ailleurs, au bûcher, ce que nous montre Dreyer, on la voit vraiment mourir, pas à petit feu, mais à grand feu.
Oui, oui.
Et rien ne nous est épargné. On pourrait voir juste le feu qui, au départ, et puis plus rien ensuite, que de la fumée. Non, non.
Non, non.
Il la montre se tortiller. On la voit vraiment mourir et souffrir.
Alors qu'elle avait dit, il y avait un carton qui le disait, que mon supplice ne dure pas trop longtemps.
Oui, c'est ce qu'elle demande à Dieu.
Et c'est ce qu'elle demande à Dieu. Et bien, elle n'est pas exaucée.
Et sa dernière parole est Jésus, dernière parole de Jeanne.
Et il y a une révolte populaire,
oui.
Et dont les femmes aussi sont très participantes.
Oui.
C'est-à-dire que...
Il y a un homme qui s'écrit à un moment donné, vous avez brûlé une sainte,
oui.
Vous avez tué une sainte.
Oui. Et puis, la soldatesque qui commence à acheter...
C'est des casse-têtes. Hein.
Des casse-têtes,
tapent,
oui.
C'est pas seulement...
Mais ils reçoivent aussi des cailloux.
Oui.
Mais eux ont des casques.
Oui.
Et effectivement, et c'est peut-être le lien d'ailleurs avec le film précédent, c'est une assemblée d'hommes qui juge une femme.
Oui.
Qui n'a aucun moyen de s'en sortir.
Non.
Aucun.
Non.
Et c'est vrai que le regard d'aujourd'hui, c'est aussi toute la modernité de ce film. Hein. Le propos qu'il tient.
Oui.
Ce sur quoi il insiste.
Et on voit bien, là, le rôle des hommes d'église qui défendent une politique.
Même une idéologie. Hein,
une idéologie, oui.
C'est une scène de l'Inquisition, ce qu'on voit là, quasiment. Et voilà, alors, je parlais de ceux qui ont été influencés par... Dreyer hein, dans leur œuvre cinématographique par la suite. Et il y a dans le film de Jean-Luc Godard, alors qui n'est pas son film le plus connu, mais Vivre sa vie, on voit à un moment donné le personnage de Nana qui est joué par Anna Karina, parce qu'à l'époque, Godard et Anna Karina étaient en couple, qui regarde une projection de la Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, et en voyant les larmes de René Falconetti, elle se met à pleurer elle-même.
Oui, oui.
Il a même mis ça dans un de ses films, Godard. Lui, il admirait vraiment beaucoup Karl Dreyer.
Bergman aussi.
Bergman, bien sûr.
Admirait. Tarkovsky.
Ouais, il a été le film référent de beaucoup de grands noms du cinéma. Et alors, le sort même sur le film s'est acharné, puisqu'à un moment, on ne pouvait plus le voir parce que les négatifs avaient été brûlés.
Oui, c'est l'histoire du film en lui-même est aussi assez rocambolesque.
Oui, parce que c'est...
Il a failli être perdu, quoi.
Oui, oui. Et c'est comment on a retrouvé une copie dans un hôpital
complètement improbable, je sais plus.
Dans un hôpital psychiatrique à Oslo.
Oui, c'est un truc.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Dreyer, vous l'avez dit, je crois, était danois.
Oui, ça s'est dit au départ, était danois, mais le film est tourné en France. Et d'ailleurs, on voit parmi les acteurs, il y en a qui sont déjà assez âgés à l'époque, dont on a oublié les noms, sauf vraiment les cinéphiles très avertis. Mais dedans, il y a Antonin Artaud, qui est jeune, qui a un peu plus de 30 ans. Antonin Artaud, qui a un visage d'ailleurs très angélique, qui a un regard... C'est le seul qui a un visage à peu près supportable, j'allais dire, dans le film. Quand on sait ce qui deviendra par la suite, c'est d'ailleurs assez troublant aussi. Et puis, il y a Michel Simon.
Oui,
mais alors, Michel Simon. Qui fait une apparition...
il faut le guetter, son passage.
Oui, il faut vraiment le guetter. C'est pareil, il a une trentaine d'années. Enfin, tous ces gens-là avaient à peu près le même âge. René Falconetti, qui d'ailleurs, après, c'est son seul grand rôle à l'écran. Hein. Enfin, moi, je n'en connais pas d'autres.
Elle n'a marqué le cinéma que par son rôle de Jeanne d'Arc.
Mais de quelle façon
Voilà.
De quelle façon. Extraordinaire.
Et Dreyer, en fait, a une longue carrière cinématographique, mais finalement, peu de réalisations.
Oui, ce n'est pas une carrière prolifique.
Non.
Ça peut être le cas de certains autres cinéphiles. Enfin, c'est pas... Il y en a qui me vient à l'esprit. C'est pas Fassbinder, par exemple, qui, lui, en 17 ans, a tourné plus de 40 films. Il y en a beaucoup moins, mais il n'y a que des chefs-d'œuvre, vraiment. On peut le dire. En parlant de cinéaste religieux, c'est un de ceux qui vient tout de suite à l'esprit. Alors là, c'est le versant protestant, avec Bergman d'ailleurs, l'Europe du Nord. Là, c'est chrétien d'Europe du Nord, protestant d'Europe du Nord. Et c'est vraiment un film extraordinaire. Moi, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut se précipiter.
Bien sûr.
Lorsqu'il repasse dans des salles de cinéma d'art et essai pour le voir. Et puis, on peut le trouver en vision gratuite, je le dis au passage, sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc, voilà.
Et il faut noter aussi au passage que quand il a été présenté en France, la version du film était raccourcie sous la pression de l'archevêque de Paris, de la censure.
Oui.
C'est-à-dire qu'on voyait bien que ça bousculait.
Oui,
le film dérangeait.
Ah oui.
C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup à vous deux d'en avoir été les invités. Je rappelle que vous animez le Ciné-Parole dédié au film de Gueorgui Unkowski, Le garçon qui faisait danser les collines, mardi prochain, le 16 juin, au cinéma L'ABC à Toulouse. Vous pourrez échanger avec Paul et Louis-Marie après la projection qui commence à 14h30. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles qu'ils ont rendez-vous chaque mercredi à 19h en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse. L'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de rester fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.